Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Flora Cortès.
Vous connaissez sans doute le dicton qui se ressemble, s'assemble. Un adage qui peut s'appliquer au sein de la famille, du couple, de la société, du monde professionnel ou de son cercle d'amis. Mais on ne peut évidemment pas parler de ressemblance sans évoquer la différence. Pourquoi nous fait-elle peur et pourquoi se rassure-t-on dans un groupe qui nous ressemble? Devons-nous être les mêmes pour vivre côte à côte? Et quel danger lorsque tout le monde se ressemble? C'est le thème d'Enquête de sens aujourd'hui. Et j'accueille ce matin Nicole Lapierre, socio-anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Sauf qui peut la vie », qui a obtenu le prix Médicis Essai en 2015. Et votre dernier livre, « Faut-il se ressembler pour s'assembler ?» Bonjour.
Bonjour.
Également en plateau avec moi, Hélène Chavanne, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone pour cette émission, Marthe Marandola, médiatrice chargée de cours à l'IFOMEN et auteure de plusieurs ouvrages. Bonjour Marthe.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les trois et merci d'être présentes avec nous ce matin. Et pour commencer cette émission, on va évidemment partir de ce dicton, cet adage qui se ressemble, s'assemble. Mais est-ce qu'on sait d'où il vient ou pourquoi on l'utilise et pourquoi c'est un adage l'on connaît si bien, peut-être Nicole Lapierre?
Et on l'utilise, d'où il vient, à vrai dire, je ne sais pas, comme la plupart des adages, hein, ça remonte à un passé un peu imprécis. Comme les adages aussi, il a force d'évidence. Et parfois, il faut quand même questionner ces évidences, ce qu'on appelle ce sens commun. Parfois, c'est juste. Parfois, ça véhicule des préjugés. Mm-hmm. Et pour moi, c'est le cas de celui-ci. On peut s'assembler sans se ressembler. Ce n'est pas une nécessité de se ressembler pour s'assembler. Et ça peut même, quand c'est devenu justement, quand ça a force de conviction, ça peut même être assez dangereux parce que ça devient, au fond, une exclusion des différents, du différent.
Justement, dans votre livre « Faut-il se ressembler pour s'assembler ?», vous expliquez que l'idée d'avoir une société où tout le monde, où cet adage serait principe, peut mener à des dérives.
Bien sûr, ça peut donner des sociétés d'exclusion, c'est-à-dire qu'il s'agit d'exclure toutes les minorités différentes, de les exclure en les marginalisant, de les exclure derrière des murs, ou à l'extrême, la fameuse solution finale des nazis, de les détruire. Et de manière différente, moins dramatique, moins violente, les sociétés qui veulent absolument assimiler les différences, pas les intégrer, les assimiler, les refusent aussi à leur manière. Simplement, il ne s'agit pas de détruire les individus, mais il s'agit de détruire une partie de leur histoire et de leur culture.
Et au début, justement, de cet ouvrage, vous avez toute une partie consacrée à la famille. C'est peut-être de là aussi d'où part cette idée de ressemblance. Il faut ressembler à ses parents. Les parents souhaitent que leurs enfants leur ressemblent. Nicole Lapierre.
Tout à fait. La conception de la famille et l'institution familiale structure quand même beaucoup de choses dans la société. Dans l'Ancien Régime, au fond, le roi, c'était le père le père de la nation. Mais dans des régimes totalitaires aussi, il y a un petit père de la nation. Et donc, cette famille, au fond, la société se construit souvent sur le modèle de la famille. Et si la ressemblance est dans la famille très, très importante, ça a des incidences sur la société. Or, c'est très important. Nous savons tous que quand un enfant naît, on cherche immédiatement, il a le nez de son grand-père, les oreilles de sa maman. Et ça nous semble absolument évident. Mm-hmm. C'est pas si évident que ça, en vérité. Parce que les ressemblances, on les cherche. On les cherche, chaque individu a sa personnalité, ses traits, mais on isole certains traits parce qu'ils font sens et aussi parce qu'ils rassurent, parce qu'ils renvoient à quelque chose de naturel. On se ressemble, c'est la nature. On s'aperçoit que dans des familles où il y a des adoptions, que dans des cas de procréation par don de gamètes, don d'ovules, etc., on trouve quand même des ressemblances, parce qu'il y a des ressemblances par mimétisme, parce qu'il y a des ressemblances par proximité affective. Et on s'aperçoit que c'est très, très important aussi pour ces familles, parce que à chaque fois, la ressemblance renvoie à la nature. Or, la famille, c'est une institution. Mmh. C'est pas une chose naturelle.
Marthe Marandola, justement, cette question de la ressemblance dans la famille, c'est quelque chose dont vous vouliez justement parler, évidemment.
La ressemblance dans la famille, on s'attend... Je parle de mon point de vue de médiatrice familiale. Mmh. Hein. Nous intervenons auprès des familles et auprès des entreprises. À un moment, on parlera aussi des associés qui se rassemblent. Et qu'est-ce qui fait qu'ils se rassemblent ? Dans les familles, on voit bien qu'au moment du conflit, ce qui est mis en avant souvent dans le conflit, ce n'est pas tellement des points de valeur fondamentale. Mm-hmm. C'est souvent, très souvent, des incompréhensions du comportement de l'autre. Et parfois, des comportements extrêmement terre-à-terre, qui viennent du quotidien. Des façons de parler, des façons de ranger ou de ne pas ranger, évidemment les idées sur l'éducation des enfants, enfin, des choses extrêmement, j'allais dire, extrêmement banales. Et ce sont des différences qui étaient certainement présentes dès le départ de l'histoire de ces personnes, mais à un certain moment, ces différences, elles deviennent inacceptable, bon, pour des tas de raisons, on ne va pas faire ici un cours de psychologie, mais c'est bien ces mêmes différences souvent qui ont attiré, parce que l'autre étant différent, ben, on est curieux de cette différence, et c'est souvent une différence attirante, et en même temps, ce sont souvent ces mêmes différences qui vont se retrouver au cœur du conflit en médiation familiale, au cœur des reproches à l'autre. Et donc, on voit bien que d'une façon peut-être très spontanée, très viscérale, très, j'allais dire très animale, on s'attend à ce que l'autre soit comme soi. Et que là, on a souvent en couple, en famille, une tendance à minorer les différences pour dire il est comme ça, elle est comme ça, mais c'est pas grave, on va s'arranger quand même. Et puis, avec le temps et d'autres soucis qui viennent, évidemment, et d'autres frustrations, ces différences, elles deviennent un moment ingérable. Et vous seriez surprise en médiation familiale de voir parfois comment on passe du temps sur des choses qui pourraient paraître des points de détail de la vie quotidienne.
Cette recherche de la ressemblance, même au sein de la famille, pour poursuivre sur cette question, Hélène Chavanne, c'est quelque chose, vraiment, c'est une recherche de la ressemblance, même au sein d'une famille qu'on ne choisit pas par essence.
C'est vrai qu'être comme l'autre, c'est plus confortable. C'est-à-dire se heurter avec des différences, c'est vrai que ça entraîne forcément des tensions, des incompréhensions, enfin, on vient de le dire, et que ce sera plus facile de dire il est comme moi, et plutôt que de devoir d'accepter l'autre qui prend pas la même voie que moi, et que forcément ça va, on rêve tous d'être dans un même, dans une même unité où on se comprend. On a ce rêve là, mais qui est bien sûr un peu court, parce que bien évidemment les différences, il faut en tenir compte, et puis il faut les regarder, il faut les accepter, mais il y a tout un travail, je trouve, à faire, d'acceptation, de repérer d'abord et d'acceptation des différences, tant au point de vue familial que dans le couple. Mais c'est vrai qu'un couple, au départ, les différences, on ne les voit pas, quoi. On aime l'autre parce qu'il est l'autre, mais en fait, on est dans l'évidence de l'amour, donc tout ce qu'il est, c'est bon, et que même quelquefois... Alors moi, je dirais un petit peu l'inverse de ce que disait cette personne médiatrice, mais quelquefois...
Marthe, voilà.
Mais quelquefois, je pense qu'au départ, si vous voulez, des différences, on ne les voit pas, quoi. Et même des qualités qu'on voit chez l'autre, par exemple, j'aimais chez lui son côté qui a des convictions un peu autoritaires. Et puis je découvre au fur et à mesure que cette autorité, finalement, il me laisse plus parler. Il faut que je sois comme lui. Bon, donc des qualités que j'avais repérées au départ peuvent devenir petit à petit des défauts qui vont empêcher une relation fluide. Mais c'est là où le couple est attendu, et à mon avis, la croissance du couple est attendue à cet endroit-là. Voilà.
Mais s'il n'y a pas aussi une évolution, est-ce qu'on peut se ressembler à un certain âge de la vie, alors dans la famille ou dans la société, et avec les gens qui nous entourent, et puis à un moment, ne plus se ressembler.
Je crois que ça fait partie de l'axe de croissance, c'est-à-dire que les ados, ils vont tous s'habiller pareil, ils vont écouter les mêmes musiques, ils vont faire les mêmes choses le samedi soir. Et puis, petit à petit, c'est vrai que quand on sait un peu plus qui on est, eh ben, on peut accepter que l'autre soit différent à partir du moment où je sais un peu plus qui je suis. Mais c'est là où c'est formidable, c'est que l'autre différent, ça me personnalise, ça me révèle à moi-même. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est une chance magnifique de rencontrer des copains différents dans une famille, d'avoir des frères et sœurs qui réagissent pas comme vous, ou même dans un couple, parce que je suis obligée de dire moi qui je suis, ce qui est important pour moi, ce qui me convient moi, et le dire avec une certaine netteté, et donc de se différencier. Mais c'est vrai qu'au départ, on fait partie, je dirais, d'un tout indifférencié, qui est tant mieux. Et c'est là où on puise des bonnes choses, où on se sent aimé, où l'amour est facile, et tant mieux. Voilà ce que je dirais.
Nicole Lapierre, justement, dans la famille, il y a un moment où l'identité propre va prendre son essor. On parlait de l'adolescence, évidemment, c'est un moment où on essaye de se différencier du reste de la famille, de ne pas ressembler forcément à ce qu'on a autour de soi.
Oui, souvent, les ados à qui on dit « tel père, tel fils », quand on insiste sur les ressemblances, se rebelle un peu, enfin, en effet. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les couples, c'est vrai pour les familles, mais c'est vrai en société aussi. C'est-à-dire qu'il faut à la fois savoir qui l'on est pour être absolument disponible en société aussi à l'altérité. Et ne pas en avoir peur, être prêt à être enrichi par la différence sociale, la différence culturelle, les différences quelles qu'elles soient. Tout ce qui est au fond rejet de l'autre se fonde très souvent sur une insécurité profonde. Et au fond, c'est la même chose.
Marthe Marandola, sur cette idée de savoir qui l'on est, c'est aussi justement en voyant les différences ou les ressemblances avec l'autre que l'on peut se définir. Marthe Marandola, vous êtes là? Ah, je crois qu'on l'a perdu pour quelques minutes. Peut-être Hélène Chavanne.
Moi, je trouve que c'est vrai que rapidement, dans un couple, on va faire l'expérience des différences. Et alors, en effet, ça va criser, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va faire de la bouillie relationnelle parce qu'on va en vouloir à l'autre, parce qu'il y aura des tensions, de l'agressivité. Et en fait, là, je pense que c'est une chance pour nous-mêmes un peu d'élargir, je dirais, les piquets de nos tentes. C'est-à-dire que, et là, il va falloir que chacun, nous prenons, je dirais, notre casquette d'explorateur. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu te mets en colère, ou moi-même quand je suis en colère, qu'est-ce que ça dit de moi? Et donc, je crois qu'on a là, à ce moment-là, à être curieux de l'autre. C'est pas parce que l'autre, je ne le comprends pas que notre relation est terminée. Au contraire, je pense que c'est une opportunité. Et c'est une chance pour grandir. On est tous appelés, je crois, je pense que c'est vraiment notre acte de foi, on est appelés à grandir, on est appelés à s'élargir, on est appelés à croître, à s'amplifier. Et que grâce, je dirais, à la vie de couple dans le quotidien, nous sommes confrontés à ces différences et nous avons, si on décide de ne pas envoyer l'autre bouler parce qu'il est différent de moi, mais si on veut être, dans cet esprit de croissance, eh ben, je crois que là, ce qui est important, c'est de rejoindre l'autre dans ce qu'il est lui, c'est-à-dire quitter mon paysage à moi ou mon monde à moi pour aller dans le paysage de l'autre et dans le monde de l'autre. Dis-moi ce qui est important. Ah ben, je vois que tu es agressif. Ben oui, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu te sens en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et là, là, il peut y avoir des choses merveilleuses parce que du coup, on rentre en empathie et de vis-à-vis de l'autre. Et l'autre, la différence de l'autre n'est plus un obstacle, mais au contraire, c'est une opportunité pour le rejoindre. Et donc là, on est dans la construction du couple, de la relation, et dans le bon de la relation et du couple, bien évidemment.
Alors, on va faire une première pause et on revient dans quelques minutes.
La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok, mais pourquoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot, tous les dimanches à 9h30 sur Radio Notre-Dame. Il a changé la face du monde et inversé le cours de l'histoire. Qui fut Jésus de Nazareth? En partenariat avec l'École biblique de Jérusalem, ses archéologues et ses théologiens, le Figaro hors-série passe le cas Jésus au crible de l'histoire. Retrouvez les grandes étapes de sa mission, le récit de son procès, le décryptage des 7 erreurs les plus communes sur le Christ. Le Figaro hors-série « Jésus-Christ est inconnu », 172 pages magnifiquement illustrées, actuellement en kiosque.
Bonjour, je suis Jérôme Tolo, directeur général des Chantiers du Cardinal. Aujourd'hui, en Île-de-France, 40 curés attendent des fonds avant de commencer des travaux urgents de rénovation. Par votre don de fin d'année, aidez les Chantiers du Cardinal à préserver les églises, à maintenir ces lieux où grandissent la foi et la fraternité. Envoyez vos dons au 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75 004 Paris, ou faites un don sur chantierducardinal.fr. D'avance, un grand merci.
En quête de sens, Flora Cortès.
De retour sur le plateau d'Enquête de sens avec mes invités Nicole Lapierre, socio-anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Son dernier livre, Faut-il se ressembler pour s'assembler? Également avec nous ce matin, Hélène Chavanne, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël. Et par téléphone, Marthe Marandola, médiatrice chargée de cours à l'IFOMEN. Donc on parlait de cette question évidente de la curiosité de l'autre, de l'envie de s'enrichir de la différence. Marthe Marandola, vous êtes avec nous?
Ah ben oui, bien sûr. Et écoutez, je suis évidemment tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais je me rends compte que c'est un chemin qui est difficile. Mm-hmm. Parce que là-dedans, il y a les émotions, il y a les frustrations, il y a beaucoup de choses qui se mettent en jeu. Et c'est sûr que à tête reposée, froidement, etc., ben, on est capable de se dire, ben, je vais demander à la personne pourquoi tu es comme ça en ce moment, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Mais ce que je vois dans ma pratique de médiatrice, c'est que les personnes arrivent avec un fond émotionnel qui est là et qui va faire en sorte qu'on n'arrive pas à raisonner comme ça. Et se mettre à la place de l'autre, c'est un exercice qui est vraiment difficile. Hein, mm-hmm. On peut parler de Rogers, de tout ce positionnement de l'empathie, de parvenir vraiment à comprendre la position de l'autre, mais pas seulement la comprendre, accepter son ressenti. Donc ça va encore beaucoup plus loin. On voit que c'est un chemin compliqué. C'est un chemin difficile pour nous. Et par exemple, nous intervenons en tant que médiatrices, nous intervenons dans des gens qui se préparent à cohabiter ensemble dans l'espace commun. Et on se rend bien compte, et on se rend tous compte dans ce milieu de la cohabitation, que les personnes viennent avec les mêmes valeurs, avec les mêmes désirs, avec la même envie de réussir, mais qu'il y a vraiment besoin de périodes d'apprentissage, de dire en quelque sorte comment je veux me préparer à vivre des différences. Parce que, sincèrement, ce n'est jamais simple. Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord avec la personne qui s'est exprimée, c'est parce que ce n'est pas simple que ça va nous faire grandir. Mais parfois, c'est parce que ce n'est pas simple qu'on arrive à se dire des choses tellement douloureuses et difficiles qu'ensuite il y a rupture. Mmh. Et pour revenir sur Madame Lapierre, dont j'apprécie énormément les travaux, c'est vrai que l'autre, dans son étrangeté, au sens strict du terme, cet étranger qui parle pas ma langue, qui me ressemble pas, qui je sais pas quoi, ben, il y a bien au départ un acte de volonté d'aller vers cette personne. Et il faut vraiment quelque chose de décisif à l'intérieur de soi. Sinon, le réflexe, ben, c'est plutôt de dire « Ah, c'est quelqu'un qui ne me ressemble pas, c'est même pas la peine d'y aller, d'ailleurs je ne sais pas quoi lui dire. » Enfin, ça va être quelque chose de l'ordre de l'éloignement. Enfin, voilà ce que je ressens. Donc je me dis, quand on fait des formations à la communication non violente, etc., donc tout ce chemin qui va sur l'autre, vers l'autre, c'est une épreuve pour soi, en fin de compte. Et je crois qu'il faudrait presque se travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait de nos différences?
Qu'est-ce qu'on fait de nos différences, Nicole Lapierre, peut-être?
On peut en faire, en effet, un grand enrichissement. Et alors, cette notion d'empathie, elle est intéressante, parce que on confond parfois empathie et sympathie, ce qui n'est pas le cas des intervenantes ici. Mais au fond, l'empathie, c'est faire le détour par la place de l'autre pour en être ensuite un peu modifié soi-même. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce que c'est facile, pas facile? Peut-être qu'il y a quand même... je ne sais pas, je fais l'hypothèse qu'il y a quand même un ver grossissant quand on travaille toujours sur les situations de crise des familles, quand on est médiatrice, quand on est... voilà, et qui fait apparaître cela comme une démarche toujours difficile, comme l'idée d'un effort, l'idée d'un apprentissage, ce qui, au niveau non pas des familles, mais de la société, n'est franchement pas tout. Pas vraiment le cas, et en tout cas pas toujours le cas.
Heureusement.
Oui, heureusement.
Bien sûr.
Oui, Hélène Chavannes. Moi, vous avez parlé, Nicole, de ce beau terme de l'altérité. Et c'est vrai que c'est pas évident d'être avec quelqu'un qui est différent de nous. Et mais je crois que, enfin, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que c'est vraiment de l'ordre de la décision. C'est-à-dire que, ou bien on fait de la bouillie relationnelle, hein, c'est-à-dire que l'autre est mon ennemi, c'est vraiment un affreux, il veut rien comprendre de ce que je suis. Ou bien, alors qu'on est tous créés dans le lien et qu'en fait, on sait bien que notre bonheur, il est dans le lien. Donc, c'est vrai que c'est un travail. Moi, je crois qu'on peut pas... alors là, pour le couple ou la famille, hein, puis la famille aussi, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait pas comme effort pour essayer de rejoindre l'autre? Mais je crois que le bonheur, il est là aussi. Enfin, et si on ne le fait pas, c'est vrai qu'on reste dans cette mélasse relationnelle et qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas bonne et qui ne donne pas envie de nous lever le matin. Et par contre, quand on est capable de rejoindre l'autre et que l'autre est capable de nous rejoindre et de nous comprendre, ben c'est vrai que l'avenir est quand même beaucoup plus en rose et bleu que noir, quoi. Enfin, et ça donne de la vitalité, ça donne de l'énergie. Mais c'est vrai que ça passe par une étape de travail, quoi.
Voilà. Marthe Marandola, vous vouliez réagir?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui se dit. Hein. Je prendrais le cas aussi, par exemple, des associés, des personnes qui s'associent pour créer un cabinet d'avocats, par exemple, de thérapeutes, que sais-je, une ferme, enfin bon. Quand on s'associe, évidemment, qu'est-ce qui fait qu'on s'associe avec quelqu'un? C'est qu'on est, on a des points communs.
Oui, c'est un point de départ.
C'est le point de départ. Ces points de commun, ça peut être des tas de choses. Une culture commune, une classe sociale commune, des études communes, des hobbies communs, des opinions communes, etc. Et c'est sûr que c'est là-dessus, sur le commun, qu'on va se rassembler. Mais qu'évidemment, on n'est jamais commun à 100%. Dieu merci, parce que sinon, on serait dans une secte. Donc, ça n'a aucun intérêt, évidemment. Et donc, je pense que cette recherche du point commun, elle est aussi pour nous rassurer, parce que ce sont des décisions complexes, difficiles, de soit faire sa vie avec quelqu'un, soit de s'associer avec des personnes. C'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Et je pense, je crois qu'on les prend sur des points communs. Mais qu'en même temps, je pense que la sagesse serait de se dire, avant, quand on s'associe, ou peut-être même quand on décide de vivre ensemble, de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire le jour où on découvre qu'on a des différences qui peuvent être conflictuelles? Comment on va gérer ça? Je pense que ce serait intéressant de travailler ça dès le départ. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, la médiation préventive. Et je pense que c'est... Voilà, alors qu'on aurait peut-être tendance à se dire, ben, puisqu'on a des valeurs communes, puisqu'on a beaucoup de choses communes, donc tout ira bien, sans trop anticiper plus loin, quoi.
Donc il faut anticiper la différence et peut-être le conflit ou le problème.
Savoir, par exemple, dans les entreprises, on dit beaucoup, il faut faire de l'intelligence collective. Sauf que l'intelligence collective, ça ne se décrète pas. Ce sont des techniques, c'est une façon même presque philosophique d'aborder l'autre comme étant un véritable égal, sans idée de hiérarchie. Alors là, comme dit Madame Lapierre, j'ai écouté une de ses conférences, bon, on peut avoir des idées de hiérarchie de culture, mm-hmm. de hiérarchie de classe sociale et que sais-je encore, ou de religion. Et là, pour travailler de façon d'un point de vue vraiment coopératif avec quelqu'un, ben, il faut quitter tous ces points de vue de hiérarchie pour rentrer réellement dans des points de vue de coopération où on parle d'être humain à être humain sans être sur une échelle de domination en fait et de pouvoir dont on n'a parfois même pas conscience quand on est dedans.
Nicole Lapierre, la question de la hiérarchisation justement c'est longuement abordé dans votre livre.
Oui, parce que c'est central. Les différences, elles existent, elles enrichissent nos sociétés, elles peuvent être compliquées à vivre pour certains à certains niveaux, dans le couple, dans le travail, comme ça a été dit. Mais le problème, ce ne sont pas les différences, mm-hmm. en vérité. Le problème, c'est en effet la hiérarchie des différences et socialement, mm-hmm. c'est-à-dire que dès lors que l'on considère qu'une culture, qu'une société, qu'une religion est supérieure à une autre, il peut pas y avoir de lien social, mm-hmm. il peut pas y avoir de solidarité, mm-hmm. parce que le fondement du lien, de la solidarité, c'est la justice, c'est mm-hmm. l'aspiration à une égalité de tous, de toutes, dans leurs différences, pas malgré leurs différences, dans leurs différences.
Oui, être proche de l'autre dans la différence, Hélène Chavanne, notion...
Ben oui, être proche, bien sûr, dans la différence, et en même temps reconnaître ses différences. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus nier les différences. Enfin, je ne pense pas les mettre sous le tapis. Au contraire, je pense que... Mais c'est vrai que c'est inconfortable. Hein. Dans un couple, il y en a qui sont taiseux, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui veulent se mettre tôt le matin et qui veulent se lever tard le soir. Oui, c'est ça, enfin bref. Il y en a qui rangent, d'autres qui ne rangent rien. Enfin, et forcément, c'est l'occasion de plein de conflits. Donc... Alors, le but, c'est pas uniquement d'accepter en disant je me contrains et je ferme les yeux ou je fais un énorme effort. Non, c'est plutôt dire bah, pour moi, c'est compliqué quand tu ranges pas tes affaires et que l'autre les entende. Et bah, petit à petit, quand on est dans cette relation, on a envie quand même d'avoir ce quand on a ce projet commun qui est quand même de vivre au quotidien ensemble. C'est vrai qu'on sait bien qu'il faut un peu se déplacer et pas uniquement et mettre un peu quelquefois son ego sous le tapis pour rejoindre l'autre et comprendre un peu que. Ben, ensemble, on a aussi des pas à faire pour le rejoindre, pour se connecter. Et quand on se connecte, c'est vrai qu'on est plus dans un lien de sécurité et que là, c'est quand même bon, quoi. Voilà.
Marthe Marandola.
Ben, il y a un exemple sur cette histoire de hiérarchie qu'on peut porter en nous sans même s'en rendre compte. Hein. Mm-hmm. C'est sur l'éducation des enfants, par exemple. Mm-hmm. Le nombre de couples qui se disputent à cause de l'éducation, parce que mon éducation qu'on a fait dans ma famille... dans ma classe sociale, dans ma culture ou dans ma région, ce que vous voulez, elle est au fond meilleure que la tienne. Mm. Et donc, je le fais pour le bien des enfants. J'essaie de mettre en place une éducation auquel je crois, parce que c'est celle qui, à mes yeux, est supérieure aux autres. Et c'est des démarches extrêmement sincères et extrêmement, honnêtes, sauf que... ça se base sur le fait que je pense que mes valeurs ou mes façons de faire, pour être plus simple que ça, mes façons de faire sont meilleures que les tiennes. Voilà. Et on voit bien que c'est un sujet d'accrochage, de conflit, etc., entre les parents. Mmh. Et en même temps, quand on se place du point de vue des enfants, ben, je pense que pour des enfants, c'est très intéressant d'avoir des parents différents. Mmh. Rudement intéressant, parce que des fois, on en profite un petit peu quand même pour obtenir des autorisations. Et puis aussi parce que ça montre des façons de vivre qui sont des réactions différentes à la vie, à tout ce qui peut se passer tous les jours. Donc, vous voyez cette histoire de ressemblance, de dissemblance et de hiérarchisation que l'on fait même inconsciemment, elle est à la fois source de conflit et en même temps, c'est vrai ce que disait votre invité, en même temps source de richesse et notamment, par exemple, dans ce cas précis pour les enfants qui vont pouvoir adapter des comportements différents.
Nicole ou Hélène Chavannes, vous vouliez réagir ?
Oui, non, mais c'est juste sur la question de l'éducation. C'est vrai qu'il faut quand même beaucoup parler avec son conjoint sur justement, d'accord, reconnaître nos différences. Mais écoute, là, je te laisse le lead pour cette question-là. Et puis moi, la semaine prochaine, c'est moi qui ferai à ma manière. Mais sans pour autant, je dirais, se juger et sans pour autant dire que moi, c'est mieux que chez toi. Parce que c'est vrai que là, si on est dans ce jugement-là, ça crée quand même. Alors là, il y a une hiérarchie qui n'est pas satisfaisante et qui crée plutôt un malaise, en fait, hein, parce qu'on se sent un peu disqualifié par l'autre. Et là, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de mieux comme façon de faire.
Donc, la Pierre, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, cette question me rappelle les résultats d'une enquête que nous avions faite avec Martine Segalen et Claudine Attias-Donfus. Mm-hmm. Elle avait donné un livre qui s'appelait « Le nouvel esprit de famille ». Et il y avait notamment une question sur c'était une enquête sur trois générations, mm-hmm. sur les transmissions. Et il y avait une question sur les sujets de conflit. Or, à notre surprise, on s'attendait à, je sais pas, des questions de mœurs, des questions religieuses, des questions politiques. Le principal sujet de conflit entre les générations, là, mm-hmm. c'était l'éducation des mm-hmm. enfants. Mm-hmm. Parce que, alors c'est un peu différent, mais ça a à voir ça aussi. Parce que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui dérangeait les places. Mm-hmm. Si les grands-parents se mêlaient de l'éducation de leurs petits-enfants à la place des parents, il y avait quelque chose qui n'allait plus là. Et c'était sur un gros échantillon de Français, cette enquête, c'était le principal sujet de conflit.
Mm-hmm. La question de l'éducation, Marthe Marandola, vous vouliez peut-être compléter cette histoire de transmission et d'éducation, vous l'avez déjà abordée, mais...
Oui, parce que je pense que chacun vient avec tout son récit familial en tête.
Son bagage.
Et que ce récit familial, il est présent, même pour des gens qui nous disent « moi j'ai rompu avec ma famille, je ne veux pas m'en occuper ». En fait, ça vit en nous. Mm-hmm. Donc, quand l'autre nous heurte sur des choses, des points de vulnérabilité dont parfois nous n'avons même pas conscience tant mm-hmm. qu'on n'a pas été heurté, en fait. Mm-hmm. C'est le choc qui nous fait prendre conscience que là, on a un point de vulnérabilité. Donc, évidemment que se mêle des contradictions internes avec la contradiction avec l'autre. Je pense que les deux se mêlent intimement. C'est comme nos besoins. Mon besoin me paraît plus important que le tien. Mmh. Je veux bien prendre en compte ton besoin, mais à condition que ça aille pas trop sur le mien. Et puis, c'est toujours le reflet de contradictions personnelles, intérieures. Par exemple, pour l'étranger dont on parlait au début de l'émission, l'autre qui nous paraît un étranger, parce qu'il est réellement un étranger, par exemple un immigré, je peux avoir... dans mes propres contradictions, de vouloir à la fois lui tendre la main et puis en me demandant de dire oui, mais s'ils sont trop nombreux, alors on va aussi couler. Enfin, que sais-je ? On voit bien que nos propres contradictions intérieures se reflètent sur la contradiction avec l'autre.
Alors, on va revenir sur cette idée de contradiction juste après une nouvelle pause en musique cette fois.
Radio Notre-Dame.
et entrer dans la danse.
De retour sur le plateau d'Enquête de Sens après Grégoire, toi plus moi. Mes invités ce matin, Nicole Lapierre, socio-anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS et auteure du livre « Faut-il se ressembler pour s'assembler ?» Hélène Chavanne, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël, et Marthe Marandola, médiatrice chargée de cours à l'IFOMEN. Juste avant cette pause, nous parlions de l'idée de contradiction et de nos propres contradictions. Hélène Chavanne, vous vouliez compléter cette notion.
Oui, c'est-à-dire que je pensais en fait ce que nous sommes amenés, nous, à accompagner des personnes qui veulent se mettre ensemble ou qui ont du mal à se mettre ensemble. Et c'est vrai que quelquefois, il faut faire un peu un état des lieux justement de nos contradictions. Parce que quelquefois, il y a des choses qui sont insurmontables et que ce n'est pas la peine non plus d'aller au casse-pipe. Parce que si, en effet, on rentre dans « il faut que je sois comme toi » ou « moi, j'ai du mal à prendre ma place vis-à-vis de toi » ou « j'ai l'impression que tu veux un peu m'imposer ta façon de faire » et si moi, je ne peux pas exister comme un « je » à part entière devant toi, un « tu » à part entière, c'est vrai que là, il y a quand même des questions qui sont importantes. Les contradictions, elles peuvent être aussi un signe d'alerte pour « oui, est-ce que nous sommes faits pour nous engager ensemble dans une vie à deux ?» Voilà. Et je pense que ça, c'est quand même important. Alors après, dans les contradictions, bien sûr, il y a une autre façon de traiter les questions. C'est vrai, quand on rentre dans une... il y a des couples où ils ont l'impression qu'ils sont en contradiction parce que tu m'imposes ou je veux t'imposer, c'est vrai qu'il y a forcément des choses à regarder, qui est dans le respect de chacun et où à respecter l'autre comme il est et respecter aussi sa place. Et avec ça, essayer quand même de faire du lien avec ça. Et tant mieux si on y arrive, voilà.
Mais est-ce qu'être face à ces contradictions via justement les ressemblances ou les différences avec l'autre, c'est pas aussi ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer, Marthe Lapierre ? Marthe Lapierre, je mélange
Nicole.
Nicole Lapierre, pardon.
Oui, enfin, je voudrais quand même revenir sur la nature des contradictions. Dans ce que disait Marthe, justement, cette contradiction entre ce qui serait au fond de l'ordre, de la conviction, de la morale, d'aller vers l'autre, l'étranger, et ce qui serait du côté d'une peur, d'un envahissement, etc., il faut l'interroger quand même, cette contradiction, parce que c'est pas simplement d'un côté la morale, la générosité, les bons sentiments, et de l'autre côté quelque chose qui serait spontanément une peur, un rejet, etc. Au fond, toutes nos actions relèvent bien sûr de notre psychisme, mais aussi beaucoup de construction sociale et de préjugés sociaux. Et la peur, elle est construite. Elle est construite sur des représentations de l'altérité, de la différence, sur une hiérarchie encore. Même l'étranger, il y a des hiérarchies entre étrangers. Il y a des étrangers mieux vus ou moins bien vus que d'autres. Et cela, d'ailleurs, différemment selon les périodes historiques, selon les pays, etc. Donc, je ne pense pas que c'était l'intention de Marthe, mais dire les choses comme ça peut laisser penser que, ben voilà, il y a des contradictions entre la générosité d'un côté et la peur et l'hostilité de l'autre. On doit aussi les interroger et les déconstruire, ces contradictions-là.
Marthe Marandola.
Ah oui, je suis entièrement d'accord. Les peurs se construisent. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Et depuis la petite enfance, les peurs se construisent. Elles prennent des formes différentes avec les temps et les générations. Et évidemment, c'est un cercle vicieux parce que plus on a peur de l'autre, moins on le connaît. Et moins on le connaît, et plus on le fantasme. Moi, je vis dans une campagne. Je peux vous dire qu'ici, pour reprendre ce sujet, il n'y a quasiment pas d'immigrés. Et il y a plein de gens qui en ont peur. Donc on voit bien, et ce sont des gens par ailleurs qui sont de braves gens, mais on voit bien qu'ils ont construit quelque chose à travers des représentations diverses et variées, et qui n'a à peu près, je dirais, rien à voir avec une réalité vivante et concrète. Donc effectivement, la peur est quelque chose qui est vraiment une des émotions fondamentales dans le parcours à faire vers l'autre. Et que ces peurs sont construites culturellement et socialement et de par notre éducation et que sais-je encore, et de notre psychologie. Et je pense que c'est pareil dans nos rapports avec l'autre, quand l'autre se révèle être différent. Au fond, de quoi on a peur ? De quoi on a peur ?
D'être bouffé.
C'est bien la peur aussi qui m'agite. Comme si l'autre pouvait, je ne sais pas, moi, m'anéantir, m'abandonner, me faire meunier. Enfin, donc, on voit bien qu'il y a une part fantasmée de ça, qu'en réalité, nous sommes bien plus forts que ça. Mais on n'a pas confiance dans nos propres forces. Et moins on s'approche de ce qui, au fond, nous fait peur, et plus on le fantasme, et plus on rentre dans des généralisations, dans des affirmations péremptoires qui nous éloignent de la vérité. On voit bien qu'en médiation, une médiation commence à prendre sens et à vraiment franchir des étapes positives. Quand je commence à reconnaître que l'autre, quand je reconnais les points de ressemblance de l'autre, par exemple que l'autre aussi a souffert, que l'autre aussi n'est pas bien, que l'autre aussi a des frustrations, et même en médiation commerciale, on fait ce travail-là. Et c'est quand l'autre redevient un humain comme moi qu'on peut de nouveau travailler réellement à comment on fait avec nos différences. Mais tant qu'on n'est pas revenu à ça, je vais employer un néologisme, excusez-moi, tant qu'on n'a pas défantasmé l'image que je me faisais de l'autre, eh bien, je ne peux pas. Je suis coincée dans mon propre raisonnement.
Oui. Hélène Chavanne.
Oui, je crois que c'est vrai qu'on a deux peurs, je pense, qui sont assez ontologiques. C'est la peur d'être mangée, je pense, et donc de ne pas exister. Et puis, notre peur, c'est de ne pas être considérée comme une personne unique et qui est différente de l'autre. Et que c'est vrai que ces deux peurs-là, il faut les affronter. Et ça, c'est vrai que là, ça demande du travail, ça demande de nommer. Et voilà. Et pourtant, on sait bien qu'on est quand même câblé pour le lien. Donc, il faut quand même qu'on aille vers l'autre de toute façon, parce que c'est comme ça qu'on avancera en humanité de toute façon. Mais c'est nos deux peurs, là, il faut les affronter, ça c'est sûr. Oui.
Si on a ces deux peurs, ça veut dire que les autres ont ces deux peurs aussi. Donc il faut remettre évidemment en perspective le fait que c'est la personne qu'on a en face a exactement les mêmes, mêmes peurs, Hélène Chavanne.
Oui, ben justement, c'est formidable. Ben, parlons de nos peurs, voilà. Asseyons-nous autour d'une table, mais dans un couple, dans une famille, je pense, enfin, je sais pas, même socialement, enfin, mettons-nous autour de la table, dis, ben, quelles sont mes peurs à moi? Et en fait, et ça s'entend, parce qu'en effet, vous avez raison, on est rejoint par ce qui est fondateur pour chacun d'entre nous, nos élans de vie, mais aussi éventuellement ce qui nous retient, et donc ces peurs. Mais qu'on reconnaisse que, en effet, ce que vous avez raison, c'est qu'on est fait de la même patte humaine, quoi. Mais on est appelé à aller de l'avant, quoi. Cette vitalité qu'on a aussi au fond de nous-mêmes, elle nous appelle à dépasser ça, quoi, ces peurs-là.
Nicole Lapierre, je vous voyais réagir quand on parlait de fantasme, de fantasmer l'autre parce qu'on ne le connaît pas, de fantasmer une culture, de fantasmer celui qui ne nous ressemble pas.
Oui, bien sûr, parce que au fond, ces fantasmes reposent sur deux choses. D'abord sur la méconnaissance. L'exemple de la campagne où il n'y a pas d'immigrés, mais on les craint, comme l'exemple du Japon où il y avait un antisémitisme sans juifs, montre bien que ce sont des constructions, ce sont des fantasmes sur fond de méconnaissance. On n'en a jamais vu, mais c'est presque peut-être pire. On n'en a jamais vu, on imagine le pire. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est que, évidemment, moi j'ai un point de vue plus social, critique, social, politique. Ces peurs, elles sont instrumentalisées aussi. Et il y a des pouvoirs qui prospèrent sur la peur. Parce que, au fond, plus les gens ont peur, plus ils se méfient des uns des autres, plus la société est fractionnée. Et qui garantit que ça fonctionne quand même? Qui va garantir qu'on va vous protéger? Le pouvoir en place.
Marthe Marandola, je vous entends réagir au bout du fil.
Ah oui, non, mais tout à fait. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Toutes les positions, enfin, toutes, je ne peux pas dire ça, mais beaucoup de positions de domination Que ce soit dans l'entreprise, dans la famille, ou quand quelqu'un impose aux autres ses vues, en fait, l'émotion de base, c'est la peur. Hein. Mmh. Je crois qu'on est toutes d'accord là-dessus. Comme vous disiez, la peur d'être mangé, la peur de disparaître, de n'être plus sujet, enfin, que sais-je. Hein. Et cette peur, elle amène à la violence. Voilà, parce qu'il y a des opinions, même quand on n'est pas violent en geste, il y a des opinions qui sont des opinions violentes et qui amènent dans la société, dans la famille, dans tous les groupes, des prises de position qui sont, voilà, qui sont une vraie violence en réalité. Je pense, pour revenir à notre sujet, les différences qu'il y a avec les autres me renvoient à tout ça, nous renvoient à tout ça, à tout ce monde qu'on ne sait pas très bien comment prendre, tout ce monde intérieur, je parle, hein, de peur, de fantasme, de crainte, de je sais pas quoi, on voit bien, enfin moi j'ai participé à beaucoup de choses interculturelles, etc. Le faire simplement un atelier de cuisine entre des personnes qui viennent de milieux sociaux, parce qu'entre les milieux sociaux, il y a quasiment la même différence qu'entre des gens de cultures différentes, de nationalités différentes ou de religions différentes. Hein. Les heurts sociaux peuvent être très, très forts, très violents. Eh bien, simplement faire un atelier cuisine ensemble ou un atelier jardinage, on voit bien que nos points de ressemblance, fondamentalement, sont bien plus importants que tout ce qui nous sépare. Mais que la majorité des gens de cette planète ont envie de vivre à peu près de la même façon, c'est-à-dire tranquillement, d'élever leurs enfants et d'avoir de quoi manger, enfin, pour résumer de façon très simple. Et que ça, c'est des besoins fondamentaux qu'on a tous et qu'on peut avoir des points de ressemblance très forts avec quelqu'un qui, a priori, nous paraît extrêmement différent. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut surmonter des peurs et je crois toutes ces positions de la médiation, des conseillers conjugaux, de toutes les personnes qui réfléchissent et qui mettent en œuvre dans la société des idées et des façons de faire qui font que des gens se rencontrent et osent se rencontrer, je pense que c'est très positif et qu'il faut les continuer malgré tous ces pouvoirs politiques qui nous disent le contraire.
Il y a l'idée, vous le disiez, de surpasser donc le fantasme, la peur pour trouver la ressemblance, mais aussi on peut le prendre dans l'autre sens et décider de valoriser la différence, justement d'admettre que la différence existe et que pour autant... On peut vivre malgré cette différence ou avec cette différence, Nicole Lapierre.
Il faut partir d'une chose, je crois, qui est fondamentale, c'est que nous sommes tous différents et tous ressemblants. Et les deux à la fois, c'est ça, cette humanité dont vous parliez. Et donc, c'est pas la peine ni d'hypostasier, de monter en épingle uniquement les différences ou uniquement les ressemblances. Il faut vivre avec les deux parce que les deux nous constituent.
Et puis c'est vrai, ce que vous avez dit, je ne sais pas l'une ou l'autre, mais vous avez parlé de rencontres. En fait, c'est vrai qu'avec nos différences, nous avons ce que c'est ce loisir et nous pouvons choisir de nous rencontrer. Et ce n'est pas parce qu'on ne parle pas exactement la même langue, à tous les sens du terme, qu'on ne peut pas se rencontrer. Et qu'il y a bien sûr beaucoup plus d'effets positifs à se rencontrer qu'à s'ignorer ou même s'enfermer, chacun dans son couloir, bien évidemment. Hein. On voit bien que malheureusement, des couples, quelquefois, sont chacun dans leur couloir, des familles, chacun vit à son rythme un peu différent. C'est vrai que c'est désolant, c'est quand même dommage. Et quand on est capable de sortir de sa tanière et puis d'aller rencontrer l'autre, ben, là, on fait des pas de géant pour l'humanité, enfin pour nous, déjà pour notre bonheur personnel. Parce qu'on est câblé pour le lien. Hein. On est câblé pour le lien. C'est là où on peut s'épanouir. Hein.
Marthe Marandola, vivre avec à la fois les ressemblances et les différences.
Bah, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je crois que peut-être un des grands changements qui peuvent avoir lieu dans notre monde mental, c'est de passer d'une vision assez pyramidale des choses, hein, par exemple la nature, les animaux, l'homme tout en haut, enfin, etc., les cultures qui sont plus ou moins dominantes, enfin, toute cette vision pyramidale de l'entreprise, de la famille, patriarcale, etc., pour passer à une vision qui sera beaucoup plus en arborescence, Mm-hmm. On se rend compte que quand l'arborescence d'un arbre, par exemple, eh bien la feuille n'est ni plus ni moins que la petite brindille ou que la racine, et qu'on a besoin de tout ça pour faire un arbre. Et je crois que ça, c'est un changement vraiment de concept mental très profond, mm-hmm. de rapport aux autres, de rapport à la nature qui, peut-être, pour être optimiste, va venir des générations qui vont être beaucoup plus habituées à raisonner en arborescence.
Hélène Chaman, vous vouliez rajouter un dernier
mot ? Oui, travailler en arborescence, c'est aussi toute une, je dirais, c'est toute une éthique qui demande du temps, qui demande de travailler. Mais c'est quand on y arrive, quand vous accueillez un couple qui vient parce qu'ils sont en pétard, qu'ils n'arrêtent pas de s'engueuler et que c'est, la tension monte tout le temps et que finalement, au bout d'un certain temps, ils sont capables de se regarder, ils sont capables de dire « Ah, mais oui, mais je peux bien comprendre ce qui se passe pour toi. Ah, mais oui, mais bien sûr. » Et bien voilà, on arrive quand même à... Alors en effet, dans cette arborescence, à être en lien.
Alors on termine sur cette idée de regard vers l'autre pour retrouver les ressemblances et les différences à la fois. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Merci Nicole Lapierre d'être venue ce matin. Votre dernier ouvrage, Faut-il se ressembler pour s'assembler, aux éditions du Seuil. Merci Hélène Chaman, votre site www.cabinetraphaël.fr. Et merci Marthe Marandola, votre site www.aegalite.fr. Toutes les références seront sur le site internet. Merci à toutes les trois pour votre participation et très belle journée à tous.